Bonsoir. Alors, effectivement, Marie le disait à l'instant, c'est vrai que j'ai fait quelques petites choses sur le patrimoine immatériel ces 10 dernières années, ça m'a pas mal occupé. Maintenant, ce n'est plus exactement mon travail, en tout cas, ce n'est plus mon travail au quotidien, mais c'est un très grand plaisir d'être avec vous ce soir et de pouvoir participer à cette conférence, à ce débat autour du patrimoine culturel immatériel dans la loi et après. Alors, je ne peux pas évidemment me substituer à Pascal Liévaux, qui est mon ancien chef à la Direction générale des patrimoines et au département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique, pour dire quelques mots au ministère. Mais néanmoins, je dirais juste que c'est un plaisir quand on peut, dans le cadre de son travail, créer et susciter des rencontres, on espère qu'elles pourront être durables, entre des partenaires institutionnels avec lesquels la Direction générale des patrimoines a beaucoup travaillé, travaille toujours beaucoup et dont elle reçoit beaucoup, je dois dire, en termes d'échanges intellectuels et aussi en termes d'actions concrètes sur le patrimoine. Alors, le laboratoire de l'ISP Cachan est un partenaire à la fois de longue date et à de multiples titres du ministère de la Culture. Je crois qu'il n'est pas de secteur de la direction du patrimoine avec lequel il n'est à un moment ou à un autre conduit un projet, une étude, organisé un colloque, un séminaire. Et sur toutes les questions touchant au droit du patrimoine culturel, ces échanges ont débouché sur des publications qui font référence aujourd'hui, y compris pour les professionnels que nous sommes. Et de fait, très tôt, ce laboratoire, à l'époque le SECOGI, s'est investi dans le champ du patrimoine culturel immatériel. Et c'est vrai que déjà en 2011, on a eu la chance avec vous d'organiser un colloque, déjà au musée du Quai Branly, qui était le premier colloque consacré aux questions de droit du patrimoine culturel immatériel. Et d'autre part, la Maison des Cultures du Monde, et notamment le Centre français du patrimoine culturel immatériel, et là aussi pour le ministère et dans le domaine précis du patrimoine culturel immatériel, depuis plus de 10 ans, Séverine le soulignait, et plus encore depuis plus de 5 ans maintenant, avec la création du centre de Vitré, un partenaire absolument incontournable, je dirais, de tous les instants, qu'il s'agisse de l'expertise sur les dossiers, de la réflexion pluridisciplinaire sur la notion de PCI, de l'animation des réseaux également, de projets d'inventaire, de programmes d'exposition. Donc, cette conférence qui lie deux événements auxquels nous avons été assidus ces dernières années, le cycle des conférences de nouveaux champs du patrimoine culturel et les journées du patrimoine immatériel de la Maison des Cultures du Monde, c'est une rencontre heureuse, je dirais, de deux trajectoires qui, à un moment ou à un autre, en tout cas, devaient certainement se rencontrer. On m'a demandé en introduction de faire peut-être un propos un petit peu nourri, même si je ne parlerai pas à la place du juriste sur les potentielles conséquences de l'inscription du PCI dans la loi LCAP, mais je vais peut-être néanmoins en retracer quelques épisodes de l'insertion de cette notion dans cette loi, et peut-être essayer aussi de situer l'importance qu'il y a aujourd'hui à tenir une réflexion telle que celle qui nous rassemble, dans la mesure où on se trouve peut-être quand même à un moment un petit peu charnière dans l'évolution de la vie de la Convention, en tout cas en France, mais peut-être aussi dans d'autres pays. Comme on le sait, l'adoption de la Convention de l'UNESCO en 2003 n'a pas été suivie tout de suite d'effet, en tout cas pour la France. L'approbation n'est intervenue que 3 ans. Environ après, sans beaucoup de manifestations à ce moment-là, avec quelques interrogations, quelques doutes aussi quant à la pertinence de cette approbation par la France. Et si on compare ce qui s'est passé dans d'autres pays ou dans des entités telles que le Québec, par exemple, qui fait partie d'un État, le Canada, qui n'a pas ratifié la Convention, le cheminement en France a été finalement assez long pour qu'on arrive à cette modeste modification, c'est-à-dire la définition, de l'article L1 du Code du patrimoine qui ajoute à la définition antérieure un simple paragraphe de 2 lignes précisant que le patrimoine s'entend aussi, en outre, des éléments du patrimoine culturel immatériel tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la Convention de l'UNESCO du 17 octobre 2003. Et pour modeste qu'elle soit, cette modification n'en a pas moins été assez difficile à obtenir. Lorsque Aurélie Filippetti, qui était alors ministre de la Culture, lance le chantier d'une nouvelle loi sur le patrimoine, peu de temps après son arrivée à la tête du ministère, l'objectif qui est clairement affiché, on le sait, est de célébrer les 100 ans de la loi fondatrice de 1913 sur les monuments historiques par une nouvelle loi dédiée au patrimoine. Et la question du patrimoine culturel immatériel est envisagée dans le cadre de cette nouvelle loi, mais bien entendu, ce n'est en aucun cas celle-ci qui a été à l'origine de ce projet de loi. Le but est bien plutôt, 10 ans après le Code du patrimoine, de faire un aggiornamento de celui-ci et également, dans la mesure du possible, de tisser des liens entre les différents livres de ce code et d'introduire une couche de cohérence supplémentaire. Néanmoins, à la demande de Vincent Bergeau, qui est directeur général des patrimoines, tous les services de la direction générale sont invités à travailler sur des modifications des textes existants. Et c'est également le cas pour le service au sein duquel je travaille à ce moment-là, le département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique, qui est en charge des questions relatives au patrimoine culturel immatériel. Alors, les versions successives que nous proposons portent toutes exclusivement sur la modification de l'article L1. Il n'est quasiment jamais question... pas du tout question même de créer un livre dédié au patrimoine culturel immatériel. Tout au plus, envisage-t-on à certains moments, peut-être que dans la partie réglementaire, il devrait se trouver quelque chose sur la conduite des projets d'inventaire du patrimoine culturel immatériel. Donc, toutes les discussions portent sur la modification de l'article L1. Et là, certains atermoiements sont sensibles, puisque... Il y a en gros 2 pierres d'achoppement. D'une part, la difficulté de prendre la notion de patrimoine culturel immatériel en tant que telle qu'elle figure dans la Convention. Et certaines versions proposées par d'autres services que le nôtre dans le cadre de cette réflexion globale parlent par exemple de patrimoine culturel immatériel, mais uniquement dans la mesure où celui-ci serait associé à des monuments. Et donc, on ne toucherait pas au socle de la définition qui reste un ensemble de biens meubles ou immeubles. Et d'autres difficultés surgissent quand on essaie de prendre en compte la notion de communauté qui occupe une place très importante dans la définition de l'UNESCO, ce qui conduit à différentes formules elliptiques pas forcément très heureuses, telles que l'idée par exemple de prendre en compte le patrimoine culturel immatériel dans la mesure où il présente une valeur culturelle, ce qui est pour le coup encore plus tautologique si on veut que la définition donnée par l'UNESCO qui elle purement circulaire, puisqu'elle parle de patrimoine immatériel dans la mesure où les communautés lui reconnaissent une valeur sans définir plus précisément le contenu de ce patrimoine. Finalement, après bien des difficultés, c'est la sous-direction des affaires juridiques du secrétariat général du ministère de la Culture qui propose cette définition qui a l'avantage d'une certaine simplicité, d'une certaine élégance aussi, et qui préserve un équilibre entre les 2 parties de la définition du patrimoine culturel. Il n'était pas question de reproduire intégralement la définition de l'UNESCO parce que cela aurait donné une définition visuellement en fait totalement déséquilibrée où le patrimoine culturel matériel qui couvre l'ensemble des livres du code aurait occupé à peu près 2 lignes tandis que le patrimoine culturel immatériel qui n'apparaît plus dans la suite du code aurait occupé quasiment 3 paragraphes. Donc, on s'en tient à cette définition. Et pendant assez longtemps, il faut dire qu'au sein du DPRPS, on n'est pas forcément familier de toutes les étapes et de tous les arbitrages par lesquels doit passer une loi avant de se retrouver devant les chambres. On en reste là et on considère l'affaire à peu près comme entendue. Et puis, entre-temps, Il y a changement de ministre, il y a également changement de projet de loi. La loi sur le patrimoine devient une loi sur l'architecture et le patrimoine. Elle devient encore par la suite, avec Fleur Pellerin, une loi sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine. Et un beau jour, nous découvrons que le texte qui a fait l'objet d'un examen serré entre le cabinet de la ministre Fleur Pellerin et le secrétariat général du gouvernement est revenu avec un assez grand nombre de coupes, qui affectent d'ailleurs à peu près tous les livres. Il y a notamment des coupes sévères sur l'archéologie et les archives. Et il n'y a plus aucune référence dans l'article L1 à la Convention pour la sauvegarde du PCI. Quand on reçoit le texte sans aucun avertissement, on est effectivement un petit peu déconfit, Pascal Liévaux et moi. Et après avoir pris des renseignements auprès de notre cher bureau des affaires juridiques, eh bien, nous découvrons qu'il a été décidé que finalement cette partie concernant le patrimoine culturel immatériel devait intégralement être renvoyée à la partie réglementaire. Et donc l'inclusion de la Convention dans la définition n'était plus à l'ordre du jour. S'ensuit un moment de doute et la décision de reprendre quand même notre bâton de pèlerin, cette fois-ci non plus par la voie des bureaux du ministère de la Culture, mais en nous appuyant sur les associations, les collectivités territoriales qui depuis une dizaine d'années ont eu à cœur de porter la mise en œuvre de cette convention pour faire réintroduire la notion de PCI dans le texte, au moment de son examen en commission parlementaire, puis ensuite lors de son examen par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et cette proposition est appuyée par Vincent Bergeau, qui dit que de toute façon, il y aura également un amendement de la ministre qui sera présenté. Et effectivement, par la suite, c'est bien ce qui se passe en commission préparatoire à l'examen de la loi. Un amendement réintroduit la définition du patrimoine culturel immatériel dans l'article L1, exactement dans les termes qui avaient été proposés par le secrétariat général du ministère de la Culture. Et par la suite, lors des différents cheminements du texte entre l'Assemblée et le Sénat, il y a quelques altérations majeures de cette proposition sur lesquelles on revient en fait lors de l'examen précédent. Et finalement, la définition est bien incorporée dans l'article L1 du Code, lorsque la loi LCAP est définitivement adoptée. Voilà pour cette courte genèse, et maintenant je parlerai juste très brièvement des enjeux qui s'y trouvent attachés, en tout cas pour nous. Sur une dizaine d'années de sa mise en œuvre en France, la politique du patrimoine culturel immatériel, si on veut appeler ainsi un ensemble d'actions qui ne se sont donc jusqu'à présent guère fondées sur une loi, mais plutôt sur une référence à un texte international et au dispositif qu'il contient. Donc cette politique s'est beaucoup appuyée, en tout cas dans un premier temps, sur les candidatures à la liste représentative, notamment portée par la France devant l'UNESCO. Dans un contexte politique et non socioculturel où le patrimoine immatériel apparaissait comme une notion relativement peu portée en France, jusque et y compris au sein de l'administration culturelle et de l'administration patrimoniale, je peux en témoigner, les candidatures sur les listes sont apparues comme une sorte de starter. Si on veut comparer avec une voiture qui a du mal à démarrer, ça a été un outil pour populariser la notion, sensibiliser les acteurs tant politiques qu'administratifs, locaux et nationaux, et faire prendre conscience des enjeux. Et de fait, le ministère de la Culture a déployé un certain savoir-faire assez efficace en matière de présentation de dossiers, puisque nous avons enregistré très peu d'échecs, beaucoup d'inscriptions et très souvent des félicitations de la part de l'UNESCO. Néanmoins, il semble depuis 2 ans à peu près que ce starter qui a joué son rôle ne puisse plus jouer un rôle de moteur, en tout cas de moteur durable, pour le développement de la politique du PCI. Les réductions imposées par l'UNESCO en termes de nombre de dossiers soumis par les pays, notamment par les pays tels que la France, qui ont déjà un nombre important d'inscriptions, nous restreignent cette année à un dossier de candidature. En principe, pas de dossier l'an prochain, un dossier éventuellement dans 2 ans, et donc à un rythme finalement très malthusien d'inscription des éléments sur les listes du PCI. Ce qui est une première chose. On peut se demander, dans ce contexte, compte tenu du nombre important de candidatures que nous avons reçues au cours de ces 10 dernières années, du nombre toujours important de candidatures qui sont en cours, peut-être une vingtaine, on peut se demander si un rythme d'inscription si lent suffira à maintenir l'intérêt des acteurs locaux ou nationaux et si certains ne risquent pas de se décourager devant une inscription qui apparaissait facile il y a 10 ans et qui aujourd'hui apparaît aussi longue et presque aussi compliquée finalement qu'une candidature au patrimoine mondial. Or, on sait que notamment dans les collectivités, il y a un intérêt pour les labels qui n'est pas totalement désintéressé et que certaines collectivités, par exemple, missionnent des bureaux d'études à la recherche d'un bouquet de labels. Et finalement, le contenu de ces labels importe moins, en quelque sorte, que l'obtention de ceux-ci, si possible, dans les limites d'une mandature municipale, comme les opérations qui concourent à la construction d'un tramway, en fait. Mais finalement, ce premier aspect n'est peut-être pas celui qui nous pose le plus de problèmes aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'au cours de toutes ces années, il y a eu une véritable conjonction d'expertise, ou en tout cas de bienveillance, entre les services du ministère de la Culture, le département du pilotage de la recherche, la Direction générale des patrimoines, les cabinets des ministres successifs et nos ambassadeurs à l'UNESCO. Cet alignement de toutes nos petites planètes a permis de faire prospérer jusqu'à l'UNESCO des dossiers de candidature, non pas exotiques, mais qui en tout cas pouvaient apparaître comme relativement atypiques, y compris par rapport à ceux qui sont déposés sur les listes du patrimoine mondial et qui peuvent se réclamer des valeurs universelles et exceptionnelles. Je ne sais pas si ce sera toujours le cas pendant les années à venir, et en tout cas les derniers signaux que nous avons reçus dans ce domaine vont plutôt clairement dans le sens contraire. S'il est clair que demain, les candidatures sur la liste représentative doivent servir à mieux vendre la marque France auprès de l'UNESCO, avec des retombées économiques qu'on peut supposer pour le moins aléatoires, ce n'est certainement plus dans ce dispositif et dans l'orientation politique qui lui est donnée que pourront se reconnaître les acteurs de terrain, les associations, les militants du patrimoine culturel immatériel, que cette convention a séduit précisément parce qu'elle proposait non seulement un patrimoine différent des autres, mais aussi une approche du patrimoine inclusive, participative, radicalement différente des dispositifs existants jusqu'à présent. C'est dans ce contexte, et j'en terminerai par là, que l'inclusion dans la loi, même si c'est un dispositif modeste aujourd'hui, même pas un dispositif, d'ailleurs plutôt simplement une référence, peut jouer un rôle. En permettant peut-être aux acteurs de tous ordres, tant administratifs qu'associatifs ou politiques, de déplacer le centre de gravité de la politique du PCI progressivement de ce qu'il a été jusqu'à présent, c'est-à-dire les candidatures sur les listes de l'UNESCO, vers la mise en œuvre d'une politique nationale qui, de toute façon, quand on fait référence au texte de la Convention et notamment à ses articles 11 à 15, constitue le véritable objectif et le véritable enjeu de la mise en œuvre de la Convention. Les articles 16 et 17, les candidatures sur les listes, et notamment les candidatures sur la liste représentative, n'étant jamais qu'un dispositif de valorisation du patrimoine culturel immatériel à l'échelle internationale. Voilà quelques éléments, donc tant de contexte historique que d'enjeux, en tout cas pour le niveau français, qui explique, à mon sens, pourquoi une rencontre telle que celle de ce soir est importante. Et nous réfléchirons peut-être d'autant mieux à cette question que nous nous pencherons dans un premier temps sur le cas spécifiquement français. Et c'est la raison pour laquelle, contre l'ordre alphabétique qui est indiqué, on a proposé à Noé Wagner d'ouvrir ce temps de discussion. Et ensuite, eh bien, grâce à Anita et à Sarah, nous pourrons partager des expériences dans des pays qui ont choisi d'emprunter la voie législative pour développer la politique du patrimoine immatériel sur le plan national. L'Espagne, je crois, en 2015, la Lettonie encore plus récemment, en 2016. Et ce sont évidemment des expériences très précieuses pour nous à partager aujourd'hui. Mais donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir de passer la parole à Noé Wagner.